Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans le podcast Tout sur tout histoire. Je suis Clotilde Dagneau. Tout sur tout histoire, c'est le podcast énergie pour celles et ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Vous pourrez y découvrir des biographies de personnages célèbres, des récits d'événements marquants, des histoires insolites. Laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de la Ouija. Dans la première partie, je vous ai promis quelques anecdotes sur les entreprises qui fabriquent les planches Ouija. J'en ai déjà donné quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Dans cette deuxième partie, je vais vous raconter quelques affaires juridiques liées à la planche Ouija. On va aussi parler de son lien avec la pop culture du XXe siècle. Et en fin d'épisode, on abordera la dimension psychologique de la Ouija. Attention, si vous n'avez pas écouté la première partie, aucune des personnes dont je vais vous parler ici n'aura de sens pour vous. Je reprends directement à la suite de l'épisode précédent. Alors, j'ai terminé la première partie avec William Fuld et sa Ouija Novelty Company. William Fuld choisit donc de ne pas poursuivre son accord de licence avec l'entreprise familiale Isaac Fuld & Brothers. Cette décision exclut complètement Isaac de la fabrication des planches Ouija et donne à William seul les droits de licence. La licence de William Fuld comporte une deuxième clause qui va causer encore plus de problèmes pour tous les concurrents. En 1902, Harry Wells Rusk vend à Bowie ses actions dans la société. Bowie détient désormais toutes les actions et c'est lui qui accorde à William Fuld la licence exclusive de fabrication des planches Ouija. À partir de là, William Fuld est le seul à avoir le droit de fabriquer des planches de spiritisme en utilisant le nom Ouija. Mais il ne se contente pas de fabriquer ce modèle. Il veut éliminer la concurrence sur le marché. Il a donc l'idée de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents en lançant sa propre planche à un prix plus bas. Sa planche, non Ouija, s'appelle « planche oracle ». Du coup, Fuld est le seul homme autorisé à fabriquer et à distribuer des planches Ouija. Mais il détient aussi la plus grande part du marché des concurrents. À ce moment-là, l'entreprise et surtout William Fuld gagnent énormément d'argent. Et certains de ses anciens collègues ont l'impression d'avoir été floués. On les comprend. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à la base, Fuld était un employé qui travaillait dans l'atelier de fabrication. Il a été nommé du jour au lendemain à la tête de l'entreprise par le colonel Washington Bowie, parce qu'ils étaient amis. Et c'est le colonel Bowie qui avait apporté les fonds nécessaires au lancement de l'entreprise. Tout ça, c'est aussi une histoire de piston et de relationnel. À ce stade, William s'est débarrassé de toutes les autres personnes impliquées dans l'entreprise pour être le seul à en tirer des bénéfices et le seul à payer des royalties à Bowie et Rusk. Vous vous souvenez de Charles Kennard ? Il avait été évincé de la société alors que la première entreprise de fabrication de planches de Ouija portait son nom. Eh bien, de son côté, il s'installe à Chicago, dans l'Illinois. Là-bas, il crée une autre société, la Northwestern Toy and Manufacturing Company. En fait, cette entreprise était une filiale de la Kennard Novelty avant la réorganisation. Elle a donc déjà fabriqué des planches Ouija. C'est une entreprise en transition parce qu'elle a été exclue du groupe depuis la réorganisation. Kennard se dit que, comme il a déjà l'équipement nécessaire, il va pouvoir développer sa propre planche de spiritisme. C'est comme ça que l'entreprise crée et vend ce qu'il appelle la planche parlante Volo. Vous vous en doutez, elle ressemble à la planche Ouija. Mais elle a quelques différences importantes. La disposition n'est pas la même. Les lettres sont groupées en forme d'entonnoir au centre de la planche et les chiffres sont répartis en deux colonnes, une de chaque côté de l'entonnoir. La planche Volo a aussi une option que je trouve assez intelligente. Elle peut prévoir le temps qu'il fera grâce aux mots « clair » et « pluie » sur les côtés de la planche. Malgré toutes ces modifications, la planche Volo ressemble trop à la planche Ouija. la société Ouija dépose une plainte pour contrefaçon. La production de la Volo s'arrête au bout de 3 mois. Kennard retente sa chance en 1897. Il commence à fabriquer une planche parlante au nom de l'American Toy Company à Baltimore avec ses partenaires Jacob Raffel et Albert Strobel. Cette nouvelle planche s'appelle Igili. Cette fois encore, le colonel Bowie, William Fuld et la Ouija Novelty Company sont prêts à attaquer en justice. L'Igili disparaît presque aussi rapidement que la Volo. Donc, Kennard n'a pas seulement été évincé de la société qui portait son nom. Il est aussi empêché légalement de fabriquer des planches concurrentes. Pendant ce temps, Fuld amasse une fortune colossale à la tête de l'entreprise Ouija. Elijah Bond, vous vous souvenez, c'est l'avocat qui avait obtenu le premier brevet pour la planche Ouija. Essaie lui aussi de fabriquer sa propre planche parlante. Sans succès. En 1907, il lance ce qu'on appelle la planche Nirvana, au nom de la Svastika Novelty Company. Svastika, ça veut dire croix gammée. Évidemment, c'est bien avant la montée du parti nazi et de son symbole de croix gammée. Bond essaie juste d'utiliser les origines sanscrites du mot pour donner un air de mysticisme ancien à sa planche. En tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup de produites. La planche Nirvana n'a jamais été une vraie concurrente de la Ouija. Pendant ce temps, la bataille entre les frères Fuld se poursuit. William a créé la William Fuld Manufacturing Company en tant que descendante de l'Isaac Fuld & Brothers pour poursuivre la production de planches Ouija. Il demande aussi une injonction pour empêcher Isaac de fabriquer des planches Ouija et tout autre jeu breveté par lui. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé entre ces deux frères. En attendant, cette injonction n'a pas découragé Isaac Fuld. En 1904, il commence à fabriquer une planche parlante qui s'appelle Oriole. Il lui faut beaucoup de temps pour mettre l'Oriole en production jusqu'en 1919. C'est cette année-là qu'il fonde la Southern Toy Company. Mais comme tous ceux qui ont essayé de concurrencer la Ouija Novelty, il n'y arrive pas. En 1920, un juge décide que William est le seul frère à avoir le droit de fabriquer des planches Ouija. Et dans un témoignage de l'affaire Fuld contre Fuld, le colonel Washington Bowie fait une déclaration. Il attribue la création de la planche Ouija à Reich, vous vous souvenez, le premier fabricant de la planche dans le Maryland, et non à Kennard ou à Fuld. Même si la société Ouija est propriétaire du brevet, William s'est donné beaucoup de mal pour gagner cette affaire contre son frère. On est en 1920 et cette bataille a commencé en 1901. Les deux frères se sont battus légalement pendant 19 ans. L'affaire atteint son paroxysme en 1920. Cette année-là, William écrit des lettres au magasin pour leur dire que s'ils vendent la planche Oriole d'Isaac, ils se rendent complices de contrefaçon. William Fuld rachète les parts du colonel Bowie en 1919, soit un an avant la fin de la bataille juridique contre son frère. William fait alors construire une nouvelle usine, très chère, sur 3 étages. Il veut moderniser la production. Dans la presse, après sa victoire, on peut souvent lire que la fabrication des planches Ouija lui a rapporté de 1 à 3 millions de dollars. En tout cas, ça doit être difficile à accepter pour son frère et pour tous ses anciens collaborateurs. Malgré tout, William continue à affirmer qu'il ne croit pas à la planche Ouija en tant que moyen de connexion spirituelle. Il déclare aux journalistes qui lui rendent visite chez lui, je cite, « Moi, croire en la planche Ouija ? Non, je ne suis pas un spiritualiste, je suis un presbytérien. » En 1920, malgré tout l'argent qu'il a gagné, William Fuld intente un procès au percepteur des impôts de Baltimore. Il déclare que ses droits fiscaux ont été surévalués de 200 dollars. Pour ce chiffre, il se base sur le tableau des taxes des marchandises classées comme jeu ou divertissement. Parce que l'image de marque de la Ouija est à cheval entre le divertissement et le mysticisme. Pour les juristes, ce n'est pas un jeu, parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Du coup, si le percepteur des impôts veut le classer comme un jeu, il doit reconnaître que les esprits sont des adversaires. Mais la vraie hésitation de la Cour sur la classification de la Ouija vient du fait qu'elle est aussi utilisée par les psychologues pour étudier l'inconscient. Alors, ce n'est pas vraiment justifié de la considérer comme un jeu. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont utilisés dans des études scientifiques, donc je trouve cet argument un peu bizarre. Et je pense que la vraie raison, c'est que Fold et les différentes entreprises qui fabriquent ces planches essaient de chevaucher la ligne entre mysticisme et jeu pour obtenir la plus grande part de marché possible. Mais si vous mettez votre produit dans une catégorie, c'est en fonction de ça que vous êtes taxé. Si après vous voulez dire « non, non, c'est aussi ça », vous jouez sur deux tableaux. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Un jour, en 1927, William Fold est sur le toit de son usine. Il supervise le remplacement d'un mât de drapeau. Mais le support sur lequel il est appuyé se casse. Il réussit à s'agripper au rebord d'une fenêtre, mais lâche sa prise et tombe. Il se casse un bras, une jambe et cinq côtes. Il a aussi une commotion cérébrale. Il est transporté en urgence à l'hôpital Johns Hopkins et succombe à ses blessures. On raconte que sur son lit de mort, il a demandé à ses trois enfants de promettre de poursuivre l'activité de l'entreprise. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le journaliste James P. Connolly écrit un article pour le Baltimore Sun sur l'explosion des ventes de planches Ouija pendant la guerre. Il interviewe William Arthur Fold, le fils de William. Son article, paru le 18 mai 1944, contient beaucoup de fausses informations. On y lit que William Fold a inventé la planche Ouija et a détenu le premier brevet. Nous, on sait que c'est faux. Quand on lui demande pourquoi les ventes de planches Ouija sont en hausse, William Arthur Fold répond, je cite, « Nous avons fait un grand travail publicitaire avec cette planche au fil des ans. Et bien sûr, c'est l'époque qui veut ça. Dans les temps que nous vivons actuellement, c'est normal que les gens aient envie d'utiliser des objets comme la planche Ouija pour demander comment vont leur fils et leur mari à l'autre bout du monde. Mais les gens n'utilisent pas ces objets de manière sérieuse. C'est juste un amusement, c'est tout. » L'article contient d'autres détails qui ne correspondent pas à la vraie histoire de la planche Ouija. William Arthur embellit la chronologie du succès commercial. Il dit que l'engouement était modéré au départ. Selon lui, c'est à l'approche de la Première Guerre mondiale que la planche elle-même a dit à son père de se préparer aux grandes affaires. Selon lui, c'est ce message qui a déclenché l'expansion des usines. Ça me rappelle tous les fabricants de soda qui disent avoir eu la révélation de la recette dans un rêve. Les Fold sont vraiment bons en marketing. Mais tout ça, c'est juste faux. Il y a des documents qui le prouvent. Il y a aussi une partie de l'article, courte mais intéressante, qui donne des commentaires de médecins. Ils répondent aux rumeurs selon lesquelles les planches Ouija pourraient rendre fous. Un médecin anonyme déclare qu'il ne pense pas que les planches Ouija provoquent la folie, mais plutôt qu'elles la révèlent. Apparemment, William Arthur Fold est très dévoué à l'entreprise. Ses frères et sœurs, Catherine et Hubert, le sont aussi, mais ils vont finir par la vendre. Parker Brothers leur rachète l'entreprise en 1966. La production de Ouija est transférée de Baltimore à Salem, dans le Massachusetts. Pendant l'année qui suit l'acquisition, 2 millions de planches Ouija sont vendues. Hasbro rachète Parker Brothers en 1991. Et aujourd'hui, c'est encore cette entreprise qui fabrique les planches Ouija. Vous pouvez toujours aller sur Internet et en acheter une. Vous pouvez entrer dans un magasin de jouets et en acheter une. Et si ce n'est pas la marque Ouija, c'est une autre planche qui y ressemble. Les planches Ouija font partie intégrante de la culture populaire, plus ou moins depuis leur invention. Elles ont toujours été présentes dans la culture populaire. En 1920, Norman Rockwell présente une planche Ouija à la une du Saturday Evening Post. On y voit un homme et une femme assis. La planche Ouija est sur leurs jambes et leurs genoux se touchent. C'est un aspect qui rend le Ouija populaire à l'époque. L'un de ses principaux avantages, c'est que la configuration de la planche exige que les personnes touchent la goutte et que leurs genoux se touchent. Ça crée un moyen socialement acceptable d'avoir un contact physique pour les jeunes couples. C'est un peu du flirt. Pour l'époque, c'est vraiment comme un date. Une occasion de toucher l'autre sans que ce soit mal vu. Toutes les apparitions de la planche Ouija dans la presse ne sont pas aussi charmantes. Pendant plus d'un siècle, les journaux relatent des histoires de personnes qui ont utilisé la Ouija de manière un peu douteuse, ou bête, voire dangereuse. L'une des premières histoires sorties de mes recherches, c'est un article publié dans le Baltimore Sun à propos d'un divorce. L'article a été publié le 26 mars 1905, donc assez tôt dans l'histoire de la Ouija. Il dit, je cite, « Un décret de divorce séparant Frank Alec, résident à Chicago, et Mabel Alec, résident désormais à Columbus, a été voté aujourd'hui par le juge Aurora pour donner la garde de l'enfant du couple au mari. Madame Alec ne s'est pas défendue des accusations selon lesquelles elle aurait consulté une planche Ouija pour déterminer ses actions. » En 1921, la Ouija est au centre d'une affaire de diffamation à Chicago. Madame Frank Walter poursuit l'une de ses amies pour avoir répandu des rumeurs à son sujet. Des on-dit basés sur ce que la Ouija lui aurait révélé. L'amie de Madame Walter, Madame Albert Yost, prétend que sa planche Ouija a identifié Madame Walter comme la personne qui a cambriolé sa maison. L'accusée dit au Chicago Tribune, je cite, « Vous voyez, elle m'a accusé d'avoir cambriolé sa maison le 15 novembre 1919 et d'avoir volé des raisins secs, du sel et des kilos d'abricots. Elle dit qu'elle sait que je l'ai fait parce que la Ouija le lui a dit. » Madame Walter réclame 10 000 dollars pour atteinte à sa réputation. Elle n'obtient pas gain de cause. Peut-être que quelqu'un était à court d'ingrédients pour faire des biscuits aux fruits. Ou si ça se trouve, c'était juste des souris. En novembre 1933, un meurtre est commis à cause des instructions d'une planche Ouija. Et c'est un meurtre particulièrement tragique. Ernest G. Turley est abattu par sa fille de 15 ans, Maddie. Cette dernière déclare qu'elle a fait une séance de spiritisme avec sa mère sur une planche Ouija. La planche lui a demandé de tuer son père, parce que sa mère, Irene Turley, était destinée à épouser, je cite, « un jeune cow-boy ». Maddie dit aussi que sa mère a fait remarquer à ce moment-là qu'il ne fallait pas contredire la planche. Maddie plaide coupable de tentative de meurtre devant le tribunal pour enfants. Elle est envoyée dans une maison de redressement. C'est d'autant plus triste que le père n'est pas mort sur le coup et qu'il a cru que son arme s'était déclenchée accidentellement. La mère, Irene Turley, est accusée de tentative de meurtre. Elle tente plusieurs fois d'obtenir un non-lieu qu'on ne lui accorde pas. En juin 1934, après 16 heures de délibération du jury, Madame Turley est déclarée coupable. Elle est condamnée à une peine de 10 à 25 ans de pénitencier de l'État. En 1958, on retrouve la planche Ouija dans une autre affaire judiciaire. Celle-ci est très étrange. Elle concerne un testament. Quand Hélène Peck meurt en 1955, elle a 83 ans. Ses proches s'attendent à ce qu'elle leur lègue sa fortune. Mais à la lecture du testament d'Hélène, c'est la surprise. Le testament annonce un legs très inhabituel. Madame Peck a légué aux deux membres de son personnel de maison 1 000 dollars chacun. Le reste de sa fortune, soit 178 000 dollars, doit aller à un certain John Gale Forbes. Mais personne ne sait qui est cet homme. Même pas Madame Peck. Elle a indiqué dans son testament que le nom avait été épelé par une planche Ouija. Elle avait utilisé une planche avec son défunt mari, Frank Peck, près de 40 ans plus tôt, en 1919. Hélène croyait que Forbes était une personne réelle et vivante et qu'il se trouvait dans un établissement psychiatrique. Elle pensait qu'il était télépathe et qu'il avait utilisé ce don pour entrer en contact avec elle par l'intermédiaire de la planche. Au départ, les neveux et nièces de Madame Peck contestent le testament. Mais les autorités insistent pour essayer de trouver ce John Gale Forbes. Des articles de journaux sont publiés dans tout le pays pour encourager toute personne portant ce nom à se manifester. Ce legs a surpris les proches d'Hélène, mais pas ses amis les plus proches. Elle leur en a déjà parlé au fil des années. Parmi ses effets personnels, on trouve des notes sur toutes les fois où elle pensait avoir eu contact avec lui. Certaines remontent au moins aux années 1930. Dans son testament, Hélène prévoit que M. Forbes ne soit pas retrouvé. Dans ce cas, elle veut que l'argent soit utilisé pour créer un fonds commémoratif John Gale Forbes. Et ce fonds doit permettre d'identifier les personnes considérées comme aliénées, mais qui sont en réalité télépathes. Après plusieurs années de recherche pour vérifier si Forbes était bien une personne réelle, le testament de Peck est finalement rejeté par le tribunal de succession. On est alors en 1958. À ce moment-là, les biens sont répartis entre ses héritiers. J'adore l'idée de créer un fonds commémoratif pour une personne qui n'a jamais existé. C'est une bonne blague. J'avoue que j'y réfléchis sérieusement. Au début du XXe siècle, malgré ses quelques affaires juridiques sérieuses, la planche Ouija a encore une réputation de jeu un peu ridicule. Et quand des gens disent qu'ils l'ont utilisée pour parler aux esprits, en général, on ne les prend pas au sérieux. Ou alors, on pense qu'ils sont fous. Mais à partir de 1973, avec le film « L'exorciste », la planche Ouija commence à être utilisée dans les films d'horreur. Et là, beaucoup de gens commencent à envisager que peut-être le Ouija peut ouvrir l'accès à des esprits démoniaques. Si vous n'avez pas vu « L'exorciste », vous pouvez écouter. Je ne vais pas spoiler. C'est au tout début du film. Le personnage de Regan raconte à sa mère qu'elle utilise la planche Ouija pour parler à une entité appelée Captain Woody. Et depuis lors, la planche Ouija est vue comme un outil sinistre lié aux ténèbres. Elle est présentée comme ça dans les médias, il y a même des films d'horreur qui s'appellent tout simplement Ouija. Au fil des décennies, on a donné beaucoup d'explications sur le fonctionnement des planches Ouija. Si on admet qu'il n'y a rien de mystique, comment est-ce qu'on explique les expériences que certaines personnes ont vécues pendant des séances ? En fait, on a une idée assez claire de ce qui se passe, ou du moins, il y a eu beaucoup d'hypothèses différentes. Depuis que la planche Ouija et ses concurrentes sont apparues sur le marché, on sait que tout le monde ne croit pas que ce sont des outils de communication avec le surnaturel. Même à l'apogée du mouvement de spiritisme aux États-Unis, il y a sûrement plus de sceptiques que de croyants. Déjà, avant que la planche Ouija ne soit populaire, les scientifiques font des études critiques du paranormal et du surnaturel. En 1894, le docteur A. Campbell Clark écrit un article sur l'écriture automatique pour le British Journal of Medicine. Il commence par dire, je cite, « On a dépensé, et on dépense encore une bonne partie de notre énergie cérébrale dans l'étude des phénomènes du soi-disant spiritisme. » La furie hypnotique est remplacée pour l'instant par la renaissance du spiritisme. Mais en dehors de la foule possédée, il y a des observateurs réfléchis qui ne se laissent pas entraîner par le nouveau culte. Ils observent et réfléchissent attentivement. Ils recherchent la vérité de manière critique dans le labyrinthe des erreurs et des superstitions. Par exemple, l'écriture automatique est une pratique populaire chez les spiritualistes américains du 19e et du début du 20e siècle. L'idée, c'est que les gens puissent écrire sans utiliser leur conscience. La personne qui pratique est souvent dans un état proche de la transe. Elle s'assoit avec les outils nécessaires pour écrire. Elle se concentre sur quelque chose d'autre, si possible quelque chose de mystique, et espère qu'une séance d'écriture automatique se produira. Des pratiques comme l'écriture automatique existent depuis des siècles et dans différentes parties du monde. Mais elles deviennent très, très populaires aux États-Unis avec l'essor du spiritualisme. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une façon pour les morts de parler à travers les vivants, de transmettre physiquement un message. La planche de spiritisme, avec sa goutte, a fait passer le processus d'une communication au crayon à une communication au pointeur. Ça simplifie. Avec la Ouija, plus besoin de déchiffrer les gribouillis. La planche Ouija est aussi un outil plus rapide que l'écriture automatique. Elle enlève la difficulté de déchiffrer l'écriture de quelqu'un, mais on garde l'idée d'une communication surnaturelle. Au début du XXe siècle, le Baltimore Sun publie beaucoup d'articles et d'éditoriaux sur la planche Ouija. On y sent un grand scepticisme. Comme on considère que la planche Ouija est née à Baltimore, ce n'est pas étonnant que le Sun s'y intéresse souvent. En février 1909, un article a pour titre « Histoire vraie de surnaturel racontée par les lecteurs du Sun ». Cet article a une tendance scientifique. Il affirme dans les premiers paragraphes, je cite, que la force étrange ne réside pas dans la planche Ouija, la goutte ou la table, mais dans une faculté inexpliquée de l'esprit humain. Celle-ci est mise en jeu par une attitude de quiétude, d'attente et de réceptivité. La goutte ou d'autres instruments servent simplement de moyens d'expression pratique. Un récit, écrit par un lecteur qui se présente sous les initiales SM, parle de l'utilisation de la Ouija comme outil de déblocage des canaux psychiques. Il décrit la planche comme un moyen d'avoir des réponses à des questions, je cite, « entravées par le conscient ». Le 23 août 1911, le Baltimore Evening Sun publie une question sur la Ouija dans son courrier des lecteurs. Je cite « Pouvez-vous m'expliquer comment les mots sont éplés sur la planche Ouija ?» Le rédacteur en chef répond « Il n'y a rien d'occulte ou de mystérieux dans la planche Ouija. Son mouvement est dû au fait que peu de personnes sont capables de garder leurs mains dans une position précise pendant un temps considérable. » Tôt ou tard, c'est sûr, quelqu'un dans le groupe fait bouger la goutte. Et une fois qu'elle commence, elle continue. Il y a deux façons d'épeler les mots définis. Parfois, le désir fort, voire conscient, d'un croyant l'aide à avancer. D'autres fois, la stimulation est créée par un moqueur plein d'humour. L'écriture automatique et l'épellation de messages par la goutte sont analysées d'un point de vue scientifique. La théorie psychodynamique de Freud revient souvent. Je précise que, bien sûr, certaines théories de Freud sont contestables. Mais il a peut-être mis le doigt sur quelque chose avec la théorie psychodynamique, même s'il s'est un peu trompé sur les motivations qui sont à l'origine du mouvement. Pour Freud, les mouvements inconscients sont l'expression des expériences de l'enfance, donc des traumatismes. En réalité, il y a bien une histoire d'inconscient. Mais ce serait plutôt l'expression de choses qu'on a apprises inconsciemment et non une simple expérience de l'enfance. Ces dernières années, des expériences psychologiques très intéressantes sont menées pour étudier le comportement et la psychologie liée à la planche Ouija. Une équipe de chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique a fait une série de tests à l'aide de la planche. Les participants à l'étude ont répondu à des questions de culture générale, par exemple sur les capitales des pays, des détails ou des dates d'événements historiques récents. C'était des questions assez faciles, portant sur des choses que la plupart des gens connaissent. Les participants ont répondu de deux manières. D'abord, ils ont donné des réponses à l'oral. Quand ils n'étaient pas sûrs, ils devaient essayer de deviner. Ensuite, avec des questions du même niveau, ils ont répondu à l'aide de la planche Ouija. Les participants au test croyaient qu'ils jouaient avec une autre personne, mais l'autre participant était un mannequin. Finalement, pendant le tour où ils ont répondu verbalement, les participants ont donné environ 50% de bonnes réponses. Mais pendant la partie où ils ont utilisé une planche Ouija, leur taux de réussite est passé à 65%. Ça peut sembler anodin, mais c'est une différence significative. Ron Rensink, professeur de psychologie et d'informatique, est l'un des chercheurs à l'origine de l'article sur le sujet. Il écrit, je cite, « Si vous ne le pensez pas, imaginez que vous jouez à la roulette et considérez la différence entre des chances de 50-50 et des chances de 65-35. » J'aimerais bien savoir combien de personnes ont participé à cette recherche. Et si c'était des étudiants en psychologie avec des crédits supplémentaires à la clé. En tout cas, les travaux de cette équipe de recherche concluent que les participants accèdent à des connaissances non conscientes avec la Ouija. Ce sont des choses qu'ils connaissent, sans être conscients de les connaître. Des informations stockées dans leur esprit, mais qu'on ne peut pas consciemment extraire. C'est l'effet idéomoteur qui serait en jeu. Ça veut dire que l'inconscient met en mouvement les muscles pour faire bouger la goutte. L'utilisateur peut avoir l'impression que ce n'est pas lui qui agit. Pourtant, c'est son propre corps qui crée ce mouvement. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique Consciousness and Cognition. Selon la chercheuse et co-autrice Hélène Gauchou, ces résultats surprenants suggèrent que nous disposons d'une seconde intelligence puissante au-delà de nos esprits conscients et à laquelle on peut accéder dans les bonnes conditions. Nous pouvons croire que nous ne connaissons pas une réponse consciemment, mais en fait, nous avons la bonne réponse dans notre subconscient. Nous l'avons peut-être entendue à la radio sans y prêter vraiment attention. Scott Eberle, docteur en histoire intellectuelle américaine, a beaucoup écrit sur les jeux et les jouets. En 2012, il rédige un article sur l'action idéomotrice et la planche Ouija pour Psychology Today. À la fin de l'article, il note que les gens n'aiment pas trop que la science explique leurs croyances. Il propose un défi amusant. Je cite « J'ai déjà écrit sur la planche Ouija et j'ai entendu beaucoup de commentaires de la part de gens inflexibles qui n'étaient pas contents d'apprendre que les fantômes n'existaient pas. En réponse, je leur ai proposé ce test d'affirmation paranormale simple. Invitez l'adepte du Ouija à mettre un bandeau sur ses yeux. Ensuite, retournez la planche d'un demi-tour sans faire de bruit. Posez des questions malicieuses de votre choix. Si votre sujet a mémorisé, volontairement ou non, la position des lettres ou les réponses oui et non, je vous promets des résultats amusants et instructifs. Il y a une issue positive à toute cette histoire. Il y a un historien, Ron Merch, qui a fait un travail de recherche pour rassembler les faits réels concernant William Feld et l'origine de la planche Ouija. Et son travail a eu un effet très positif sur l'intérêt que suscite actuellement la Ouija. Il a créé un énorme site web sur William Feld, que j'ai beaucoup lu. Les deux parties de la famille, séparées depuis les désaccords entre William et Isaac, se sont réunies. Merch a déclaré au Baltimore Magazine en 2020 que les descendants de William et d'Isaac l'avaient contacté indépendamment lorsqu'il avait commencé à partager son travail en ligne. Ils ont fini par demander à Merch de les mettre en contact, et il s'est avéré qu'ils vivaient tout près les uns des autres. Depuis, ils se réunissent régulièrement. C'est une belle fin pour cette partie de l'histoire. C'était un peu déchirant de savoir que deux frères avaient coupé les ponts pour une affaire de gros sous. Voilà, c'était l'histoire de la planche Ouija. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout sur Tout Histoire. Tout sur Tout Histoire est un podcast Énergie et iHeart Podcast. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Holly Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class et produit en collaboration avec l'Acme Productions. Retrouvez tous les épisodes sur énergie.fr, sur l'application Énergie ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !